Ne cherchez plus votre émission au cœur de l'actualité et de votre quotidien qui décrypte pour vous les sujets brûlants, les experts Mayuri et quels experts du jour, les meilleurs dans leur domaine, Madame la présidente d'honneur de la CGPME et vice-présidente de la CPME nationale en charge de l'industrie, Madame Joëlle Prévost-Madère, merci d'être avec nous. Et Monsieur Thibault Le Chavega, troisième vice-président de la collectivité territoriale de Guyane et porte-parole de la majorité territoriale. Encore une fois, je vous réitère mes remerciements pour nous accompagner et avoir accepté notre invitation. Ce soir, on parle de sujets brûlants d'actualité, une fois encore, pour ne pas me répéter. Pour commencer, dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer peut-être... Madame Joëlle Prévost-Madère, et surtout aux auditeurs et internautes néophytes, ou tout simplement qui l'ignorent, comment se décompose le prix des carburants, grosso modo, aujourd'hui? Comment ça se passe?
En fait, après les événements de 2008, il y a une nouvelle formulation qui a été émise par les services de l'État. Et après plusieurs consultations, et malgré le refus donc, de l'ensemble des instances locales, qu'elles soient politiques ou non, il nous a été imposé une formule de calcul des prix des carburants routiers, donc qui est mise en place depuis 2011 et que nous subissons donc depuis et aujourd'hui encore nous prouve bien que cette formule n'est pas adéquate et qu'elle conduit aux effets pervers que l'on connaît et que tout le monde dénonce, à savoir ces prix très élevés des prix de carburant routier.
Quelque chose à ajouter?
Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la formation des prix, elle est arrêtée en Guyane par la préfecture, puisque vous savez que les prix des carburants en Outre-mer sont réglementés, puisque nous sommes dans des situations oligopolistiques. Ou à Mayotte, c'est carrément monopolistique, puisqu'il y a un seul opérateur à Mayotte, c'est Total. Donc, avec une situation qui est relativement cocasse, c'est que tous les opérateurs se fixent sur le tarif maximal. C'est-à-dire que la préfecture fixe un prix maximal et tous les distributeurs en Guyane pratiquent ce prix maximal. Ils auraient la possibilité, s'ils le voulaient, de ne pas le faire. Ils font le choix de le faire. Alors, ce qui est vrai, c'est que la tarification aujourd'hui, sous couvert de transparence, ne l'est absolument pas du tout. Puisque la préfecture nous dit grosso modo un peu comment est composé le prix, mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est comment dans chaque section le prix est composé et qu'est-ce qui relève de la marge pure et qu'est-ce qui relève des coûts de production. Donc il y a un énorme travail à faire sur cette question de transparence. On parle de transparence dans tous les domaines aujourd'hui. On parle de transparence dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine environnemental. Et manifestement, sur la question de la formation des prix, malgré un affichage qui est fait, il n'y a pas de transparence sur la formation de ces prix.
Alors, juste une précision tout de même. Ils auraient du mal à nous communiquer les marges. Parce que normalement, c'est quand même une source un peu secrète. La marge concerne chaque entreprise et on n'a pas à communiquer donc le niveau de cette marge aux uns ou aux autres. Par contre, et c'est ce qui est exact, au niveau de la formule de prix, quand on parle de prix réglementé, ben justement ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas l'être parce que la formule, c'est ça le point de départ, la formule comprend des éléments qui correspondent à des produits réglementés, carburant routier, le gazole, donc le gazole sans plomb, le fuel, pas le fuel lourd, parce que le fuel justement qui est vendu pour tout ce qui est avion ne fait pas partie des prix réglementés. Par contre, dans la formule, il y a deux ou trois lignes qui concernent les produits non réglementés. Et c'est ce qui empêche les services de l'État de pouvoir contrôler cette formule parce que justement ils ont accepté la mise en place de différents éléments qui constituent cette formule, et ces éléments, parmi ces éléments, il y a des produits dont ils ne peuvent pas contrôler les montants, l'origine, etc. Donc on se retrouve bien là non pas justement dans un contexte de prix réglementé, parce que la formule n'est pas adéquate dès le départ. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Et c'est pour ça qu'à un moment, je ne pointe plus la Sara. Qui a accepté la formule? J'imagine mal la Sara mettant fusil sur la tempe des représentants de l'État. L'État l'a accepté, l'État nous l'a imposé, la met en œuvre et s'aperçoit maintenant qu'il y a des problèmes, justement, pour qu'ils puissent obtenir les éléments qui leur permettent de justifier la formule. Pas plus tard que ce matin, je leur ai démontré qu'il y a des sommes de lignes qui ne correspondent pas au montant qui se trouve dans cette formule de prix qu'ils publient tous les mois.
Justement, ça me permet de poser la question suivante. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette ligne de communication et ce renvoi de balles entre les pouvoirs publics, donc justement entre l'État, donc du coup la préfecture et la CTG, enfin surtout la préfecture à la CTG, et cette communication un petit peu de la préfecture lorsqu'il publie un peu ses descriptifs, hein, je pense que un petit peu tout le monde l'a vu, et quand justement vous nous informez et vous nous dites que il y a un manque de transparence ou que ces calculs ne correspondent pas. Est-ce que vous comprenez un petit peu la démarche?
Non, mais c'est même pas il y a un manque de transparence. C'est que pour moi, et ce serait grave s'il en est autrement, les services de l'État savent qu'ils ne peuvent pas contrôler cette formule, à tel point qu'il y a quelques années, en Martinique, les services de l'État ont été au tribunal pour exiger que la SARA leur remette un certain nombre d'éléments. Ils ont été déboutés à juste titre, puisqu'il s'agit d'éléments, de produits, concernant des produits qui ne sont pas réglementés, mais que l'on retrouve dans une formule de produits réglementés. C'est tout. Donc c'est pour ça que c'est vrai, et même moi au début, c'est ce que je faisais. Je pointais du doigt systématiquement et automatiquement la SARA. Quand vous avez une entreprise à qui vous permettez de faire de tels bénéfices, dirons-nous, de se faire distribuer tous les ans des dividendes. Lorsque vous mettez en place, là c'est l'État pareil qui continue de mettre en place, un décret en 2015 qui prévoit que la SARA perçoit via la fixation de ses prix de vente, donc c'est-à-dire via tout ce que nous payons, une rémunération de 9% des capitaux propres. Qui dit capitaux propres dit montant qui augmente chaque année, puisqu'on rajoute aux capitaux existants les résultats d'exploitation de chaque année, en particulier quand vous avez des bénéfices de l'ordre de 20 millions d'euros chaque année. Donc chaque année, c'est 9% de ces capitaux qui augmentent annuellement et qui sont assurés au travers d'un décret à la SARA. Rien que si je prends deux exemples, ça conduit ensuite à un lissage, c'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit par exemple solde de lissage 2019 6,7 millions, au travers de la formule pendant toute l'année, il y aura des augmentations qui vont être mises pour qu'en fin d'année, ils aient récupéré les 6,7 millions d'euros qui leur sont garantis. Et tenez-vous bien, connaissez la situation, ce qui s'est passé en 2020. Confinement, moins de circulation, donc moins de vente de produits. Par rapport à ce décret, pour 2020, il y a un lissage de 46,2 millions d'euros. Donc vous comprenez qu'en 2021, les prix n'ont cessé d'augmenter.
Ce qui est sûr, c'est que sur la communication de la préfecture, la préfecture de la Guyane joue un jeu dangereux. Parce que quand elle publie, comme elle le fait sous prétexte de transparence, la formation des prix, ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'elle essaye de monter les Guyanais contre les Guyanais. Parce que ce qu'elle essaye de faire, c'est utiliser la CTG comme échappatoire. Puisque ce qu'elle essaie de montrer, c'est que, regardez, le plus gros du prix de l'essence, en fait, est collecté par les collectivités, que ce soit la CTG ou que ce soit les communes, et que donc, s'il y a quelque chose à faire, il ne faut pas nous regarder, nous, État, il ne faut pas regarder les producteurs, il faut regarder la CTG. Sauf que la réalité, c'est quoi ? C'est que, et on l'a encore dit ce matin avec Madame Prévost-Madère, c'est qu'en Guyane, si vous regardez le prix du sans-plan, les taxes, c'est 37% du prix total. Dans l'Hexagone, ça monte jusqu'à 60% du prix total. Donc la réalité, c'est que le poids des taxes est plus faible en Guyane que dans l'Hexagone, alors que le prix total payé par le consommateur, lui, est plus élevé. Et en fait, quand le préfet fait ça, le préfet veut nous montrer nous contre nous. Parce que la fiscalité locale, elle est élevée, certes, mais elle fait quoi ? Elle finance des infrastructures pour les Guyanais. Les routes qui sont utilisées par les automobilistes, quand l'automobiliste paye sa taxe sur les produits pétroliers, il finance la route sur laquelle il roule. Il finance des écoles, des collèges et des lycées. Il finance tout un tas de services dont il bénéficie. Alors, moi, je dis, c'est drôle parce que, oui, il y a la transparence, mais attention, essayer de monter les Guyanais contre les Guyanais, ça marche à très court terme, mais ça ne marche pas en définitive. Et quand le préfet fait ça, le préfet sait très bien ce qu'il fait, et moi, je dis qu'il joue à un jeu très dangereux.
Alors, je partage l'analyse de monsieur, et je suis heureuse de constater qu'il a un peu changé, modifié sa façon de voir, puisqu'il y a quelques semaines, vous décriviez plutôt que si la collectivité doit participer, bon, elle le fera. Ce que vous dites, de toute façon, ne veut pas dire que vous ne le feriez
pas. Non, voilà, je suis toujours sur la même position, Madame Joël-Pierre.
Mais effectivement, c'est pour ça que moi, je ne veux pas entendre parler des autres structures que l'on pointe du doigt. En ce qui me concerne, je ne sais et je ne vois que les services de l'État. Qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, ce sont eux qui ont créé cette formule, ce sont eux qui nous l'ont imposée, ce sont eux qui sortent les décrets qui prévoient que pour assurer à la SARA une rémunération nette de 9%, ce sont eux qui font que les autres opérateurs, comme par exemple les responsables des stations-service, ne peuvent avoir, eux, une augmentation de leur marge qui est bloquée depuis plus de 10 ans. Alors que, je peux vous dire que quelqu'un qui loue une station-service, je peux vous dire qu'il ne roule pas obligatoirement sur l'or. Hein. Et pour permettre à la SARA a demandé, on le lui a donné. Donc je dis que c'est l'État qui porte la seule et entière responsabilité de la situation dans laquelle la Guyane se trouve, alors que nous avons tous les indicateurs les plus mauvais de l'ensemble des Outre-mer, à l'exception de Mayotte. Assez souvent, nous sommes frères ou sœurs. Donc, ça n'est pas entendable.
Moi, ce que je peux dire, et peut-être préciser la position qui est celle de la CTG, de cette majorité. Nous avons dit une chose, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou, nous sommes capables de parler de tout. Et lorsque vous l'avez dit, si vous regardez les commentaires qu'il y a sur cette publication dont vous avez fait mention, la plupart des commentaires, évidemment, disent qu'est-ce que la CTG fait. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes du côté de la population guyanaise, nous sommes du côté des consommateurs, nous sommes la majorité du pouvoir d'achat. Donc, les sujets, il n'y a aucun sujet tabou. Donc, s'il faut que nous mettions notre contribution en baissant la taxe, la fiscalité, il faut en parler. Mais ce que je dis et ce que dit le président, c'est que ça ne peut pas se faire sans compensation. Et c'est là où on se retrouve avec Madame Joël-Prévost-Madère. C'est qu'on ne va pas retirer de l'argent de la caisse de la CTG pour finalement aller récupérer d'une main ce que je vous donne, je vais la récupérer ailleurs. Parce que les infrastructures, il faudra les faire, les financements, il faudra les trouver. Donc si jamais je vous dis demain, écoutez, on va baisser les taxes que la CTG récupère, pour que les gens comprennent très bien, pour un centime, grosso modo, c'est 1 million d'euros.
Oui, quels sont les enjeux, en fait.
Voilà, ça veut dire que je vais devoir trouver un moyen de le récupérer ailleurs. Donc ce que je vais vous donner dans une main, je vais déjà réfléchir à comment je vais le récupérer ailleurs. Et on ne peut pas être dans ce jeu-là. Donc oui, on peut jouer le jeu, on peut ouvrir le débat, mais ça veut dire que avec l'État, comment on compense, comment on finance les infrastructures, et aussi on ne veut pas être les seuls à jouer le jeu. On ne peut pas être face à des gens. Madame Joëlle Prévost-Madard l'a dit, au niveau des Outre-mer, c'est plus de 120 millions d'euros de bénéfices pour les pétroliers. On ne peut pas être avec des gens qui, excusez-moi, et je ne parle pas, je précise parce que je veux que ça soit très clair pour tout le monde. Je ne parle pas du gérant de station-service qui, lui, touche quelques centimes par litre qu'il vend. Je ne parle pas de celui qui vit et investit sur le territoire guyanais, qui permet à des familles d'avoir un emploi. Je ne parle pas de ces gens-là. Moi, ce que je parle, c'est des gros, des multinationales. Je parle de Sol, je parle de Ruby et je parle de Total. Ces gens qui font des bénéfices astronomiques et qui, de là où ils sont, nous regardent nous bargarer entre nous parce que c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé aujourd'hui à la CCI, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que, une fois de plus, nous sommes en train de nous chamailler entre nous pour voir comment on va se partager un petit. Et pendant ce temps, le PDG de Total, il est calé là où il est dans sa belle vie et il nous regarde et il se dit « Ah, mais ils sont marrants ces gens-là. Hein, ben, on va encore. » Et c'est pour ça que je disais que c'était dangereux ce que joue le préfet. Parce que quand le préfet fait ça, il joue le jeu de ces gens-là. Il met de l'huile sur le feu. Il essaye de nous monter les uns contre les autres. Et qu'au lieu qu'on soit avec monsieur le préfet et ses services assis avec les transporteurs, avec les socioprofessionnels, avec les représentants des pétroliers, parce qu'il faut travailler avec eux, on n'est pas contre eux, on est ensemble. Au lieu qu'on soit assis à essayer de trouver une solution ensemble, eh bien, vous en avez qui ne jouent pas le jeu, au contraire, et qui mettent de l'huile sur le feu. Et moi, personnellement, je trouve ça dommage, parce que sur certains sujets, comme le pouvoir d'achat des Guyanais, il faut qu'on soit capable d'être tous ensemble, de s'asseoir et de trouver une solution. Parce que vous avez bien vu, la cocotte minute, elle est en train de bouillir. C'est ce qu'ont dit les gens ce matin. Et puis, on le sait, on a une situation aux Antilles, on voit ce qu'elle est. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre territoire guyanais? Moi, ce n'est pas ce que je veux pour mon territoire guyanais. Moi, je ne veux pas qu'au lieu d'essayer de baisser le feu sous la cocotte minute, on continue à augmenter le gaz. Donc, je veux qu'on puisse s'asseoir. Donc, oui, la CTG est prête à jouer le jeu. Le président a mandaté ses services pour voir comment on pouvait trouver des mécanismes pour qu'ils doivent nous permettre d'éviter des augmentations, mais on ne peut pas être les seuls parce qu'on ne pourra pas. Parce que ça voudra dire, comme je viens de dire, donner dans une main, reprendre de l'autre.
Vous voulez ajouter quelque chose, Mme Prévost-Madard, ou je peux poser ma question qui non, va peut-être... Il y a une référence qui est faite depuis quelques jours à un gel qui a été fait par la CTG, l'ancienne majorité, excusez-moi d'en faire référence. Il y a quelques années, le temps d'améliorer la situation.
il n'y a pas de souci, on peut en parler très librement. Moi, je vous ai dit que sur des sujets comme ça.
Qu'est-ce que vous y répondez?
Madame Sesto, qu'on soit très clair. Sur ce sujet-là, comme ça, moi, il n'y a pas de majorité d'opposition. Nous sommes ensemble pour le pouvoir d'achat des Guyanais. Donc, on peut très bien en parler. Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y avait les fameux mouvements de 2008 qui ont permis d'avoir les 50 centimes. Les 50 centimes, ça a été un effort tripartite et ça a été en grande partie compensé. C'est pour ça qu'il y a eu un effort qui a été un effort relativement collectif. Après, si vous parlez de ce qui s'est passé depuis 2010, c'est-à-dire que la CTG a fait le choix de ne pas augmenter les taux. Mais heureusement qu'ils ont fait ce choix-là, parce que là, on serait venu... alourdir encore la peine des Guyanais en augmentant la fiscalité locale. Et ça, ça aurait été la catastrophe parce que vous avez l'augmentation des cours du brut. Si l'ancienne majorité avait en plus décidé de voter des nouveaux taux au-dessus, on serait venu rajouter à la lourdeur. Donc le choix qui a été fait, et c'est un choix en responsabilité, et heureusement qu'il a été fait, c'est le choix que moi j'aurais fait si j'avais été à leur place, c'est de garder les taux au même niveau parce que, comme je vous disais, baisser les taux, ben, ça aurait impliqué... des conséquences catastrophiques sur les finances et augmenter, ça aurait impliqué des conséquences catastrophiques sur le pouvoir d'achat des Guyanais.
Juste une précision, c'est que bien avant que l'on ne change de formule, bien avant 2008, la fiscalité, le niveau de la fiscalité donc, du conseil régional à l'époque, qui est devenu ensuite collectivité territoriale, donc cette fiscalité était la même. Elle n'a jamais augmenté parce qu'elle est plafonnée. Donc, en ce sens, vous avez raison de dire, ce n'est pas cette fiscalité qui fait que les prix des carburants routiers sont chers. Absolument pas. C'est le reste, c'est justement tout le reste. De la même façon qu'on avait dénoncé cette première formule qui était non seulement irrégulière, mais illégale, ce qui a été conforté par l'expert envoyé par le gouvernement en 2009, qui a conforté en tout point. En 2009, vous avez eu également l'Assemblée nationale qui a établi un rapport.
Madame Taubira a été co-rapporteure d'ailleurs.
Entre autres. Et ce rapport a reconnu tout ce que nous dénoncions déjà en 2008, à savoir une situation de monopole, une situation de rente dans l'intérêt de la SARA, de la seule SARA, pas de la population, pas, on parle des gérants de station, pas des gérants de station, de la seule SARA. Le fait que, et ça je n'ai pas arrêté de le dire, la SARA raffinait pour la Martinique et la Guadeloupe, et même quand elle ne raffinait que pour la Martinique et la Guadeloupe, parce que nous ne relevons de la SARA que depuis 2007. Ce n'était pas le cas avant, il y avait des pétroliers qui venaient de partout et qui apportaient des produits finis. Et la SARA ne pouvait pas raffiner pour un troisième territoire, parce que sa capacité, c'est la plus petite raffinerie au monde. C'est un non-sens économique, ça n'existe nulle part ailleurs, une raffinerie de cette taille. Par contre, lorsqu'on dit à la SARA, vous allez devoir fournir la Guyane, on ne nous fait pas payer le prix d'un produit déjà tout raffiné que l'on importe et que l'on nous vend. On nous parle de mutualisation, et en particulier, oui, mutualisation du transport entre les Antilles et la Guyane, alors que le coût est peanuts. Par contre, on nous mutualise dans le raffinage du produit, qui n'est pas fait pour nous, parce qu'ils ne sont pas en capacité de produire plus. Et c'est là que je dis que je ne pointe même pas du doigt la SARA. Je dis, la SARA profite du fait que les services de l'État lui donnent du pain béni et lui garantit ses rentes, parce que dans la SARA, il y a des pétroliers, et les pétroliers touchent également, en plus, dans la formule de prix, un tarif de gros. Donc ils sont gagnants à tous les niveaux. Et c'est l'État qui organise cela.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que la collectivité, et personne n'est en droit de dire « Oui, je ne veux pas que vous interveniez, etc. Et » tout. Une collectivité sur un territoire, son rôle est d'essayer de faire en sorte que sa population soit le mieux possible. Donc, de remplir ses compétences, déjà. Et je rappelle qu'elle en a qui sont déjà assez lourdes en matière de construction d'établissements scolaires. Et pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens conséquents, parce que c'est une compétence qui lui a été transmise par l'État, mais sans moyens financiers. Les établissements, à l'époque, n'étaient pas du tout entretenus.
Pour que les gens comprennent bien, on est obligé de doubler les fonds européens dédiés aux constructions scolaires. Sur la prochaine programmation, on est obligé de doubler les fonds qu'on va dédier aux constructions scolaires, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je me permets de rebondir sur l'intervention de Mme Prévost-Badère sur deux choses. La première chose, c'est sur la fixation des prix. Dans le rapport de 2009 qu'elle a cité, il y avait une préconisation qui était de décentraliser la fameuse fixation des prix, et que ce ne soit plus la préfecture qui le fasse, mais à l'époque, c'était la collectivité régionale, et donc la CTG. Moi, je dis, chiche, pourquoi pas ? Pourquoi pas décentraliser cette fixation des prix ? Et la deuxième chose, c'est sur la fourniture, le fait qu'on se fournisse à la SARA depuis 2007. Aujourd'hui, alors on avait été regardé de voir si c'était possible d'avoir du pétrole, enfin des produits pétroliers qui venaient directement de l'Hexagone, parce que c'était une des pistes déjà en 2009 qui avait été étudiée, et puis le rapport disait que grosso modo ça ferait à peu près les mêmes tarifs, donc c'est peut-être pas intéressant. Par contre, il y a la question de savoir est-ce qu'on peut pas aller chez nos voisins, puisque c'était le cas avant 2007, et puis après bon, on va pas refaire l'histoire, les constructeurs automobiles s'étaient plaints parce que soi-disant ça encrassait les moteurs. La justice leur avait donné raison, et c'est comme ça qu'on en est arrivé avec la SARA. Le président de la CTG s'est entretenu avec le gouvernement du Suriname un petit peu plus tôt cette semaine pour envisager d'aller se fournir chez eux, puisqu'ils ont investi massivement dans un outil, la Satsouli. Ils ont une très grande raffinerie qui est en l'état sous-utilisée. Donc eux aussi, ils ont besoin de trouver des débouchés, puisque pour l'instant, c'est un poids financier pour eux. Donc, de ce que nous a dit, de ce que le gouvernement du Suriname a répondu au président de la CTG, c'est qu'aujourd'hui, ils seraient capables de nous fournir du gazole, mais pas encore du sans-plomb, mais qui seront en capacité très prochainement de pouvoir le faire. Donc, il y a un rendez-vous qui a été fixé en début de prochaine semaine, encore un deuxième rendez-vous téléphonique entre le président de la CTG et le gouvernement du Suriname. Et donc, c'est une piste que nous étudions extrêmement au sérieux pour voir si ça peut, à court, moyen terme, ça serait plutôt à moyen terme d'ailleurs, avoir du pétrole de qualité équivalente à des tarifs plus compétitifs pour les particuliers et aussi pour les professionnels.
Il y a la question des normes.
Alors, c'est possible. En fait, la SARA achète déjà du gazole, l'excédent de gazole, donc achète déjà donc, au Suriname, le fait remonter jusque chez eux, rajoute les 2-3 solvants qu'il faut simplement ajouter dedans, et ensuite nous les revend. Vous imaginez un peu le trajet. En fait, la seule difficulté qu'il y a par rapport au gazole produit, qui pourrait être produit aux normes européennes, c'est qu'il faut quand même qu'ils aient des cuves qui soient séparées de leurs cuves, puisqu'ils ne vont pas faire du carburant aux normes européennes pour leur territoire, puisqu'ils n'ont pas cette nécessité d'exigence de normes européennes. Donc, il faut d'autres cuves, puisqu'on peut pas, on doit pas mélanger des produits qui ne sont pas aux normes et des produits aux normes. Donc, il faut simplement qu'ils construisent les cuves dans lesquelles on stockerait le produit aux normes européennes. Mais ça, c'est effectivement faisable rapidement pour le gazole. Et il faut attendre, je pense, encore un an ou deux pour tout ce qui est sans son plomb, puisqu'ils sont en train de commencer à exploiter leur découverte qu'il n'y a pas chez nous, paraît-il.
Là, on va sur un terrain encore plus glissant, Madame Probomader. Mais je vous rappelle que nous étions opposés à la loi Hulot et que malheureusement, à l'époque, nous étions bien seuls. Mais on va laisser peut-être Madame Sesto poser ses questions.
Non, pour éviter de dire effectivement que tout ce qui a été fait en 2008, 2009 et 2010, c'est une montagne qui a accouché de la souris. Est-ce que vous pourriez prendre les préconisations à bras-le-corps?
Alors, je vais laisser Madame Probomader, puisqu'elle était au premier horloge, pour répondre. Mais déjà, moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que c'était il y a 11 ans, ça a permis de contenir les prix et ça a permis de faire rentrer du pouvoir d'achat dans le panier des Guyanais. Donc il faut reconnaître ce qui est César, ce qui est à César. Et on ne peut pas dire que c'est la montagne à coucher d'une souris. Ça fait quand même 10 ans. Nous nous retrouvons 10 ans, malheureusement. Les cours du brut augmentent. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose de mondial. Et c'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Parce que c'est ça la difficulté de l'exercice. C'est que les cours du brut vont continuer à augmenter. Et on le sait.
Est-ce qu'on peut rappeler que c'est aussi un phénomène mondial?
Non, mais on peut le dire, hein, ce n'est pas le problème. Mais même avec des cours de Brent qui augmentent et qui augmenteront, je vous rappelle qu'en 2008, on était à 110 dollars. Heureusement, on n'y est pas maintenant, parce qu'avec la formule et le décret, je crois qu'on serait à 2 euros et quelques. Hein, les prix, nous aurons 2 euros et quelques comme prix de vente. Donc, il a raison. J'entends parfois, ouais, ça a servi à quoi? Moins 50 centimes pendant 2 ans. Je pense que ceux qui ont participé à la baisse du produit s'en souviennent quand même, puisqu'il y a quand même une perte de recettes. Cela étant, c'est vrai que nous n'avions pas, en tout cas la population et nous, n'avions pas compris que cela avait été pris sur la TSC 2. Pour nous, même si la collectivité avançait les fonds, mais l'État remboursait ces fonds. Donc pour nous, c'était un acompte. Pourquoi? C'est pour la raison pour laquelle, j'insiste bien, donc il y a eu ces 50 centimes, et ensuite, à partir de 2011, nouvelle formule, et les prix partent de toujours, le point de départ reste toujours le prix qui a été bloqué depuis fin 2008. Donc, on a quand même pu bénéficier de ces 50 centimes pendant bien plus longtemps que certains ne le pensent. Encore une fois, je le dis, je le répète. Quelles que soient les propositions que peuvent faire que peut faire la collectivité. Et encore une fois, c'est tout à leur honneur qu'ils décident d'y aller. Moi, je ne vais pas aller leur dire « Vous n'auriez pas dû, vous ne devez pas, etc. » Il s'agit de penser aussi au bien-être de la population. Mais pour moi, cela doit être, et ça doit être inscrit dans le marbre, un décret ou quoi, c'est une avance qui est faite et qui doit être reversée par l'État en le prenant ou en diminuant les marges de la SARA ou quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas qui doit être reversée par l'État. Parce que c'est l'État qui a l'entière et totale responsabilité de cette formule qu'ils reconnaissent eux-mêmes ne pas pouvoir contrôler d'un bout de chaîne à l'autre et qui conduit à ces dérives.
On est entièrement d'accord et d'ailleurs je pense que le président de la CTG c'est inscrit dans vraiment un dialogue avec les différents partenaires pour arriver justement à une position qui soit commune. Et d'ailleurs il l'a dit ce matin, nous allons initier une demande de révision de ce fameux décret de décembre 2013 qui déjà à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre. Nous allons faire une demande de révision, mais que de toutes les façons, pour que les Guyanais comprennent très bien, pour ceux qui nous écoutent comprennent très bien, la révision du décret, ça va prendre minimum un an à un an et demi. Donc c'est un processus qui malheureusement est un processus assez long, et alors que nous sommes en période préélectorale. Donc le processus, il va être lancé, mais les cartes ne sont pas toutes dans nos mains. Pour qu'on parle très très concrètement, parce que je pense que les gens veulent savoir, ils se disent mais attendez, c'est ce qui s'est passé un peu ce matin, c'est dire attendez, nous on est à 1,89€, vous nous racontez tout ça machin.
D'ailleurs, c'est ce que monsieur Lucien, voilà. Mais c'est pas grave.
Restera au même
pour parler, voilà, ils demandent 62 centimes de baisse. 62 centimes de baisse en du jour au demain, c'est tout simplement pas possible. Par contre, ce qu'on dit, c'est que si on demande la révision du décret, on s'inscrit dans une relation de travail avec l'État, de voir comment on peut baisser à moyen terme le prix. Et comme l'a dit Mme Prévost-Madère, nous, on peut jouer en attendant sur la fiscalité, en disant ben, bon, on baisse la fiscalité, mais c'est exactement ce que disait Mme Prévost-Madère, c'est une avance et derrière, il faut qu'il y ait compensation. Mais le problème de la compensation, parce qu'il faut qu'on me dise, la compensation, c'est aujourd'hui je compense, demain je ne compense pas. Vous savez, l'État s'est engagé à compenser la perte d'octroi de mer. Et moi, je suis à l'aise pour le dire, parce qu'on s'était battu pour que l'État arrête de ponctionner sur l'octroi de mer pour donner à la CTG et le donne aux communes, parce que nos communes sont dans des situations catastrophiques financièrement avec... elle aussi, des obligations énormes. Donc on s'était battu pour que l'État arrête de ponctionner les 27 millions d'euros qu'elle ponctionnait, qu'elle donnait à la CTG, et en compensant. Sauf que ben, on voit qu'on est en train de se faire rouler dans la farine, parce que la première année, je compense, la deuxième année, je compense, et puis la troisième année, bon, c'est 24 millions, la cinquième, c'est 22, et puis après, le truc disparaît. Donc les compensations, on sait comment ça fonctionne. Mais il n'empêche que, il va falloir faire quelque chose. Et nous, nous sommes prêts à faire cet effort. Et s'il faut faire un mécanisme de plafonnement des taxes sur les produits pétroliers, on le fera, mais il faut que ça se fasse une fois de plus dans une relation de travail avec l'État et que derrière il y ait compensation. On peut pas demander on peut pas prendre dans la poche des Guyanais ce qu'on en a enlevé dans sa poche. C'est comme si je prends dans la poche de droite pour rattraper ce que j'ai donné dans la poche de gauche.
Et donc, si à la réunion de ce matin l'État n'est pas prêt
Moi, sincèrement, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas ce que Mme Prévost-Madère, mais alors c'est Thibault Lechat qui en parle. Hein. Moi, je suis arrivé. On a commencé par nous présenter les indicateurs économiques de la Guyane. Un enfoncement de porte ouverte totale. Donc,
oui,
moi,
mais qui était quand même nécessaire. Moi, j'avoue,
j'ai
repris espoir. Parce que je me suis dit, tiens, ils sont conscients.
Je me suis dit, on a parlé de taux de chômage, du machin. J'ai dit, bon, ben merci, ça fait plaisir d'être là. Surtout que moi, j'avais commission des mines à côté et puis j'avais comité de pilotage des fonds de coopération interrégionaux. Et donc, j'étais venu parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui touche au quotidien des Guyanais. Et donc, au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être une blague. Et puis finalement, on est rentré dans le but du sujet, sauf que c'était une réunion totalement informative. J'appelle pas ça une réunion de travail. On était là pour nous expliquer comment fonctionnent les mécanismes des prix, mais on n'était pas là dans une relation de travail pour trouver une solution commune. Moi, c'est pas vraiment ce que j'attendais de cette réunion. Elle a eu un intérêt, je vais vous le dire, moi ça m'a beaucoup rassuré, parce que j'ai vu que les personnes qui étaient présentes dans le public ont compris que le fait que ce soit que qu'on joue que sur la fiscalité, c'était se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est tentant, comme je vous dis, quand vous voyez un tableau comme ils vont envoyé par la préfecture sur les réseaux sociaux, c'est tentant de se dire, mais attendez, regardez, là, je vois que le plus gros, 63 centimes, c'est la CTG, donc c'est la CTG, c'est tentant. Mais sauf qu'il faut vraiment essayer de prendre un petit peu de recul et de se rendre compte que les 63 centimes, c'est pas l'argent de Thibault Le Chavega, de Gabriel Serville, de un tel. C'est le pot commun des Guyanais. C'est ce qui permet de faire fonctionner le pays et plus que le faire fonctionner, d'essayer de rattraper ce retard qu'on est tout le temps en train d'essayer de combler et mieux essayer de faire de la prospective en essayant de faire en sorte qu'on n'est pas tout le temps en train de colmater les brèches.
Madame Prévost-Mader.
Je suis président. Vous aviez le schéma là.
Oui. Tout à fait.
La nouvelle forme de présentation.
L'infographie de la préfecture.
Juste pour montrer, je ne sais pas à quel moment.
Oui, ici.
Alors, il y a une ligne où ils présentent, où ils disent approvisionnement. Donc, là, c'est la SARA. Et puis, matière première. En fait, ce qu'ils doivent savoir, c'est que la SARA, c'est approvisionnement et matière première.
Oui.
Oui, mais ils ne le mettent pas.
Ils le distinguent.
Normalement,
c'est vrai qu'ils le distinguent.
Sarah uniquement sur approvisionnement.
Voilà. Donc, on a l'impression.
On ne sait pas quelle partie est coût réel et quelle partie est marge.
On a l'impression que le coût de la Sarah est moindre.
Mais du coup, le montant est beaucoup plus élevé que celui de la collectivité.
C'est ça, effectivement.
Et ils ne disent pas quelle partie relève du coût et quelle partie relève de la marge.
Exact.
Moi, vous savez, moi, ce n'est pas une attaque. Je vais être très clair. Moi, je n'attaque pas, mais déjà, je m'interroge. On peut me le reprocher, mais moi, j'aime bien qu'on m'explique. J'aime bien comprendre les choses. On ne peut pas me dire matière première 7 ans et truc 7 ans. Personne ne demande à la SARA à Total de faire du bénévolat. C'est normal lorsqu'on est un investisseur, lorsqu'on prend des risques, d'avoir un retour sur investissement. Moi, quand je travaille, vous, quand vous travaillez, nous espérons avoir un salaire pour faire vivre nos familles et vivre correctement si c'est possible. Personne n'est en train de dire qu'il ne faut pas faire de bénéfices, il ne faut pas faire de marge. Par contre, ce que je dis, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une transparence pour qu'on comprenne. Parce que comprendre, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Mais quand on présente des chiffres comme ça et on dit, regarde, on est dans la transparence, ça c'est le transport, ça c'est la matière, maintenant, ça c'est pas de la transparence, ça c'est de l'affichage. L'affichage et la transparence, c'est pas la même chose. Et si j'étais taquin, je dirais que c'est carrément du blou-blou. Mais bon, je ne suis pas taquin.
Non, mais moi, en conclusion, c'est cette présentation doit être effacée complètement. Vous avez dit que ça a été fait volontairement. Oui, c'est fait volontairement. Et à un moment, je pensais que ça venait de la SARA. Pour moi, cela vient clairement de service de l'État.
Hein. Ah non, c'est la préfecture qui l'a publié ce matin.
Non, mais ça fait un moment que
ils
ça
ont repris
sort.
Pendant votre réunion, ça a été proposé.
Ils ont copié-collé.
La première fois, c'est la SARA l'a sortie.
Exactement.
Là, ils ont copié-collé. L'État, ça l'intéresse de poursuivre ça.
Oui, je crois qu'ils avaient sorti ça.
C'est ça, c'est la même chose.
Cette infographie.
Oui, aussi.
Que nous vous mettrons en commentaire du Facebook Live.
Éviter que l'on se rende compte, parce que si on mettait la formule de calcul de prix telle qu'elle existe, à un moment, les gens se diraient, non, mais attends, il y a quand même un truc qui ne va pas là.
Et on vous a répondu quoi ce matin? Que c'était trop compliqué. Moi, j'estime que je ne suis pas si couillon que ça et que je peux essayer de comprendre.
Alors,
donc, on a répondu, mesdames et madame, c'est trop compliqué la formule, non, on ne va pas la mettre.
Oui, alors par la suite, il y a quand même quelques personnes de l'État qui sont venues me dire, vous avez raison, totalement.
Ben oui,
ils
mais
le savent, de toute façon, je l'ai démontré. Par A plus B,
ah, moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait. C'est un truc qui m'agace quand on me dit c'est trop compliqué. Et ben, on va essayer, mon petit cerveau, on va essayer de le faire fonctionner et je vais essayer de comprendre.
Nous arrivons malheureusement, ce fut un moment passionnant. Comme nous l'avons dit, nous avions des experts de renom et les meilleurs dans leur domaine, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. La dernière question que j'aime à poser, si vous aviez une baguette magique, que ce soit sur le sujet ou dans vos domaines respectifs, vous l'utiliseriez pour changer quoi?
C'est ça, moi, l'odeur?
Aux femmes, à la femme, aux femmes, l'odeur.
En tant que femme? En tant que.
Et experte dans le domaine?
Non. Alors, quand vous parlez de baguette magique, changez quoi? Uniquement au niveau de ce domaine?
Si vous voulez. Vous avez le choix. Vous avez le choix.
Il y a tellement de choses. Non, bah, écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est que que la France soit à la hauteur de ce qu'elle doit être et qu'elle assume lorsque elle sait qu'elle fait mal. Et sur ce territoire, Dieu seul sait si l'État fait mal ou n'arrive pas à faire, mais qu'il le dise et qu'il arrête ensuite de pointer du doigt en disant « Oui, mais c'est vous, vous êtes toujours en train de râler, vous n'êtes jamais satisfait, etc. » Il y a tellement de domaines où les compétences régaliennes de l'État, par exemple, ne sont pas satisfaites et ça a des conséquences terribles sur le territoire. Pour la population, si je regarde rien que le niveau de scolarisation, pour lequel il y a de grosses difficultés, le niveau même de l'éducation, lorsqu'on est dans des classes de 32 élèves, alors qu'en métropole, on se bat, il y a une loi qui est sortie, il y a peut-être des classes de 20, et parfois même de 15. Le niveau de santé, non, c'est un moment, ça va vraiment de nouveau, et c'est ce que nous craignons et que nous souhaitons, que l'on n'arrive pas à ce stade, mais assez souvent, hélas, l'État n'entend que lorsque ça explose. Et c'est bien dommage.
Alors, comme Mme Primo-Madère a répondu de façon générale et que je partage la ligne, c'est une ligne que nous partageons, je vais répondre sur la problématique plus du prix de l'essence. Alors moi, je ne vais pas parler de baguette magique, mais moi je dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais l'État? Déjà, j'aurais changé le décret de 2013 et j'aurais imposé plus de transparence sur la formation du prix, qu'est-ce qui relève de la marge pure, qu'est-ce qui relève du coût, qu'est-ce qui relève des surcoûts, parce que chez nous, nous avons des surcoûts, et qu'est-ce qui relève d'une espèce de formule magique, justement, pour reprendre les mots, qui est utilisée par les différents opérateurs, et en particulier par les pétroliers et la SARA. Et qu'est-ce que je referais d'autre? Eh bien, si j'avais une baguette magique cette fois-ci, j'irais prendre dans la poche des actionnaires des pétroliers, dont un vient de poster 42 milliards d'euros de bénéfices. 42 milliards de bénéfices. Le budget en investissement de la CTG, c'est 178 millions d'euros pour un territoire grand comme le Portugal, de 300 000 habitants avec 3% de population en plus. Nous avons 178 millions d'euros par an pour tout investir, dont 70 millions d'euros, pour que les gens comprennent très bien, proviennent de la taxe locale sur les produits pétroliers. Donc si j'avais une baguette magique, je serais allé récupérer dans la poche des actionnaires qui sont bien là où il est, parce que moi j'assume totalement, je préfère regarder dans la poche des actionnaires loin de la Guyane plutôt que dans le porte-monnaie des Guyanais.
Alors c'est pour ça que j'aime pas cette expression de baguette magique, parce qu'on rêve jusqu'au maximum en sachant que ce sera pas possible.
D'accord.
Par contre, je conclurai en disant, la Guyane ne peut pas être le territoire qui permet à la France d'offrir à l'Union européenne l'indépendance à l'espace, l'accès à l'espace, et laisser ce territoire, la population qui y vit et son économie s'enfoncer de cette façon. Et c'est là qu'elle a toute une part de responsabilité en laissant faire un certain nombre de choses. La pêche illégale, l'orpaillage illégal. On parle, oui, ben, vous allez vous installer sur un bout de terrain que vous allez déboiser. Tout de suite, hein, vous avez les forces de l'ordre qui vont venir. D'autres personnes peuvent venir de l'extérieur. Je peux comprendre, il y a de la misère ailleurs. Elles viennent, elles s'installent, on laisse déboiser, on laisse couper les arbres. C'est un moment, la population locale dit stop. Et puis, vous disiez que l'État avait ce matin monté, nous monte les uns contre les autres. Je vais finir par croire que c'est un sport national, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils montent les uns contre les autres. Cette population qui vit en Guyane et ceux qui viennent de l'extérieur, alors que la Guyane a toujours été une terre de migration. Migration, immigration, nous sommes tous issus de plusieurs communautés et tout. Et je trouve ça tellement dommage. Oui, nous devons nous développer. Oui, la population doit augmenter parce que le territoire est immense. Mais déjà, nous devons avoir du foncier parce qu'être propriétaire de 93% du territoire, c'est inentendable. D'ailleurs, c'est le seul territoire français où la France reste encore propriétaire de foncier.
Alors on avance un peu sur le sujet, heureusement, mais bon. De toute façon, il faut que l'État décide une fois pour toutes, est-ce que nous sommes entièrement français, français à part entière, ou français entièrement à part. Il va falloir qu'il se décide et rapidement, les présidentielles arrivent.
Cher Xasper, merci à vous pour votre remarquable expertise et c'est avec plaisir que nous avons pu partager ce moment. Quant à nous, de se retrouver la semaine prochaine, on espère que vous serez entendus hein, et que nos porte-monnaies surtout seront soulagées. N'hésitez pas à voir ou à revoir le live Facebook sur la page de Mayuri Campus ou via les liens sur l'ensemble de nos réseaux.